Ben, bonsoir à tous, bonsoir Cyril, merci de t'être prêté à ce petit passage sur le grill, puisque ça va être ça l'idée. Alors bien que je sois de très loin le plus âgé des deux, on va commencer cet échange par grand-père raconte-nous une histoire, le grand-père étant toi. Et en l'occurrence, l'idée c'était de faire un retour d'expérience sur la Convention citoyenne, enfin la Convention citoyenne pour le climat, et de voir quels enseignements on peut en tirer. Sur ce qui marche et marche moins bien dans notre système démocratique, on va dire, quand il s'agit de prendre en considération des enjeux de long terme. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui se grattent la tête, les uns disent il faudrait faire une chambre haute spécialiste du long terme, les autres un vice-premier ministre, j'en étais, etc. Bon, bref. Donc, en fait, on sent bien qu'on tâtonne autour de cette idée qui est d'essayer de s'y prendre un peu autrement. Alors, la première question que j'aurais, toute bête, c'est quoi la genèse du projet? C'est-à-dire, comment ce truc-là est né? À qui il a fallu en parler pour que ça marche? Et j'ai une question incidente qui est, qu'est-ce qui fait que Macron a accepté? Et à ton avis, donc là c'est à ton avis, qu'est-ce que lui pensait que ça allait lui amener comme bénéfice, puisque ce genre d'animal, accepte rarement quelque chose sans penser que ça va lui amener un bénéfice?
Et bonsoir Jean-Marc, bonsoir tout le monde. Très content d'être là. Écoute, ce truc est né dans la continuité des mobilisations pour le climat qui ont commencé en août 2018, quand Nicolas Hulot a démissionné. Et tu as eu une sorte de succession d'acteurs qui ont commencé à se rejoindre. Donc ça a commencé par les marches pour le climat en septembre. Ensuite, il y a eu les jeunes autour de Greta Thunberg, etc., qui ont commencé leur grève pour le climat. Puis, à peu près de façon concomitante, il y a eu le démarrage de Extinction Rebellion à Londres, et quasiment le même week-end, le démarrage des Gilets jaunes en France. Et moi, j'ai fait partie des personnes qui ont essayé de faire se rejoindre ces différentes marches, ces différents mouvements de contestation. Donc, j'avais écrit une tribune dans Libé au début décembre 2018 pour appeler les Gilets jaunes à marcher avec nous en disant que finalement, le problème qui était la source à la fois du déséquilibre climatique et des inégalités se trouvait certainement dans un modèle économique qui considérait que le monde était un vaste gisement de ressources et que les humains étaient des variables d'ajustement et pas du vivant avec lequel on a des égards ajustés, comme dirait Baptiste Morisot. Et petit à petit, à force, tout ça a fini par construire un rapport de force. Le mouvement des Gilets jaunes, ayant une composante assez musclée d'action directe, qui s'est mis à mettre le feu aux Fouquet's, ça a commencé à devenir assez tendu. Et par-dessus tout ça est arrivée l'affaire du siècle. Donc l'idée d'attaquer l'État en justice pour ne pas avoir fait assez pour protéger la population française face aux dangers du changement climatique. Et il se trouve que pour l'affaire du siècle, on avait réuni énormément d'acteurs, que ce soit des ONG, des personnalités publiques, acteurs, chanteurs, des influenceurs ou youtubeurs, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, des mouvements citoyens. Et on avait raconté une histoire qui, à mon sens, avait toutes les chances de plaire aux Français, puisqu'il s'agissait d'attaquer l'État en justice, donc de faire la bagarre. Et il se trouve qu'on ne s'est pas trompé parce qu'en quelques jours, on a atteint 1 million de signatures pour attaquer l'État en justice. Et en un mois, on était à 2,3 millions. Ce qui est toujours le record de mobilisation en ligne en France. Du coup, on est invité sur France Inter pour en parler. Et on y va, Marion Cotillard et moi, puisqu'on était deux figures publiques du truc. On critique la politique d'Emmanuel Macron. Et quelques jours plus tard, Marion m'appelle et me dit est-ce que tu as reçu le texto de Macron? Alors, je dis non, parce que moi, je ne reçois pas tellement de textos de Macron en général dans ma vie. Et toi, qu'est-ce que c'est? Elle me dit bah, je ne sais pas, j'ai reçu un texto signé Macron, mais je ne sais pas si c'est le vrai. Je dis bah, tu n'as quand même pas plein de copains qui t'écrivent en signant Macron. Elle me dit détrompe-toi, je pourrais avoir des copains qui peuvent faire ça. Donc, elle m'envoie le texto et je lui dis non, a priori, je pense que c'est le vrai Macron. Donc, je lui rédige une petite réponse qu'elle lui envoie. Et quelques semaines plus tard, il lui propose en gros de venir à l'Élysée pour lui expliquer que voilà, elle n'a pas bien compris que la politique française pour le climat, c'est formidable et qu'il se fera un plaisir de lui décrire toutes les mesures qui sont prises. Donc elle dit, moi, je ne veux pas y aller toute seule, donc on y va tous les deux. Et moi, je m'étais dit à quoi ça sert. Enfin, ça me faisait, ça m'intéressait d'un point de vue anthropologique, on va dire, de rencontrer la bête.
Ça me rappelle des souvenirs.
Oui. Mais au-delà de ça, je me disais à quoi ça. Enfin, si c'est juste pour que, voilà, il y ait des photos, un serrage de main et qu'ils se servent de nous pour faire croire qu'il fait quelque chose, ça sert à rien. Donc, on a exigé que la rencontre soit privée. Ils ont essayé de nous la faire à l'envers juste avant, et puis on a menacé de pas venir. Puis finalement, donc c'est resté privé. Et j'avais construit.
Pardon, juste un élément de compréhension. Privé, ça veut dire sans communiqué de presse, sans conseiller ou...
Non, ça veut dire pas de que c'est pas inscrit à l'agenda
D'accord,
officiel.
ok.
Et donc qu'il n'y a pas de photo, et donc qu'il n'y a pas de communication publique qui est
D'accord,
faite autour de la rencontre.
ok.
C'est totalement officieux. Et pendant la rencontre, il démarre comme il fait, c'est-à-dire, bon, il serre la main avec le sourire jusqu'aux dents, il fait de petites références, de petites allusions à quand on s'était vu la fois d'avant au Salon du Livre pour créer un truc de familiarité. Et il commence par dire, bon, j'ai quelques idées sur les territoires et tout ça. Et je dis, bon, si ça ne vous ennuie pas, est-ce qu'on peut prendre 5-10 minutes pour faire une sorte de point de la situation pour qu'on se dise où on en est et qu'on essaie de parler sur un terrain commun. Parce que là, si c'est juste pour parler des quelques idées qu'on a sur les territoires, je crois que c'est, enfin, on n'est pas du tout à la hauteur du sujet. Et il me dit, oui, bien sûr, très bien. Et finalement, en fait, j'ai parlé 45 minutes sans m'arrêter, quasiment. Et j'avais préparé toute une sorte d'argumentaire. Donc, d'abord, je lui avais apporté les dernières études qui montraient l'accélération du processus et le fait que, voilà, on allait vers une trajectoire de au moins 3-4. Je lui avais apporté des rapports qui avaient été produits, notamment l'ONU, qui, dans son rapport soutenabilité, avait commandé un rapport à un cabinet finlandais pour demander si le capitalisme était en mesure de nous sortir de là ou pas. Et le cabinet finlandais avait dit non, a priori pas dans les temps impartis, parce que d'ici 2030, enfin, les impératifs de rentabilité financière sont trop à court terme et c'est pas compatible avec les activités qu'on aurait besoin de développer, qui elles ne sont pas forcément directement rémunératrices, en tout cas pas à ce point-là. Je lui avais apporté le rapport de BL Évolution, là, qui avait essayé de traduire l'objectif de 1,5 degré pour voir ce que ça donnerait dans des mesures prises par le gouvernement français. Et évidemment, il y avait des trucs du style réduire de 50% le nombre de voitures en circulation, faire une tombola pour savoir qui peut prendre l'avion, passer de 90 kilos de viande à 25. Et donc, après avoir empilé ça, je lui dis, on est bien d'accord que ça, vous ne le ferez jamais. Vous le ferez pas, c'est sûr. Et puis vous le ferez pas en plus parce que ça se trouve, vous auriez la moitié de la France dans la rue. Enfin, si vous dites demain, il faut qu'on ait 2 fois moins de voitures. Et il me dit, ah oui, bah oui, on est d'accord, je le ferai pas. Je dis donc, je pense que la seule solution pour y arriver, puisque vous ne le ferez pas, que vous avez des forces économiques qui en plus font pression sur vous, que vous avez l'inertie de votre administration, c'est de remettre la chose entre les mains des Français, c'est-à-dire de tirer des gens au sort, de leur proposer de se saisir du sujet, d'être alimenté par des experts qui leur expliquent tous les tenants et les aboutissants, de les faire délibérer à ciel ouvert pour que tout le monde puisse suivre l'état de leur réflexion et qu'ensuite le fruit de leur délibération et leur proposition soit soumise à référendum. Et donc moi,
Tu avais déjà participé à une conférence des citoyens ou jamais?
en fait, j'avais été filmer ce qui s'était passé en Islande au moment où il y avait eu
D'accord.
le crack en 2009-10 et où ils avaient réécrit la Constitution, ils avaient élu un petit
D'accord.
panel de citoyens pour. Bon. Okay. Tout ce processus avait été d'ailleurs
D'accord.
jusqu'au bout. Le seul problème étant qu'il y avait un référendum consultatif pour valider la nouvelle Constitution qui n'était que consultatif et les conservateurs qui étaient au pouvoir ont décidé de le laisser consultatif. Et puis je connaissais bien l'exemple irlandais, qui avait utilisé des conventions citoyennes pour travailler sur le droit à l'avortement et le mariage pour tous, qui étaient 2 points durs dans la société irlandaise très catholique, et qui avait réussi à faire évoluer ces 2 points grâce à des conventions citoyennes qui avaient été suivies de référendums. Et puis j'avais beaucoup échangé avec David Van Reybrouck, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Contre les élections. Où il fait une sorte de voyage pour regarder quelles sont les innovations démocratiques les plus intéressantes un peu partout dans le monde. Et donc cette idée-là que je lui proposais, on l'avait déjà mise dans la presse avec un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens le 30 janvier, en disant le grand débat, ça ne nous paraît pas être l'innovation démocratique du siècle, parce que c'est bon, voilà, c'est Emmanuel Macron qui va parler pendant des heures à des gens dans les villes.
Ça, je connais un peu parce que j'ai participé à ce genre d'exercice, donc je vois très bien les limites.
Oui, exactement. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de lui dire, et j'ai été très insistant, et il m'a fait reformuler, etc. Il m'a dit, ce que vous me dites, c'est que les citoyens produisent des choses et directement, je les passe au référendum sans les modifier. Je dis, oui, c'est ça. Il m'a dit, d'accord, ok, j'ai pigé, bon. Et ensuite, il nous a dit, bon, donnez-moi 8 jours pour voir si on y arrive. En fait, les 10 jours sont devenus 2 mois. Et puis, bon, finalement, c'est lui qui a remis le truc sur le tapis, a priori contre l'avis de son administration, et qui a décidé de le faire. Je pense que le bénéfice qu'il pensait en tirer, et c'est un peu ce que j'avais aussi vendu, hein, c'est-à-dire que je lui ai fait miroiter le fait qu'il avait une occasion historique d'être un vrai leader qui rentre dans l'histoire, qui fait quelque chose à la fois sur le plan climatique et démocratique qui n'a jamais été fait aucun endroit du monde. Et donc, bon, ce genre de personnage aime bien aussi ce type de perspective de faire quelque chose qui rentre dans l'histoire. Mais je crois aussi qu'il n'avait pas mesuré à quel point les citoyens allaient pousser loin l'exercice, à quel point leurs propositions seraient ambitieuses, à quel point ça ferait réagir dans la société et à quel point il allait se retrouver tenu, même si au final il a fait ce qu'il a voulu, mais tenu un peu par sa parole, en tout cas dans les médias, c'est-à-dire qu'on lui en demanderait des comptes. Et c'est d'ailleurs pour ça et que c'était un de mes rôles de garant d'être extrêmement tenace sur cette idée du sans-filtre, parce que comme c'est un processus qui n'est pas institutionnalisé, ultimement, c'est vraiment le président de la République qui a le dernier mot, donc il n'y a que lui qui pouvait nous assurer qu'on irait jusqu'au bout. Donc cette idée du sans-filtre servait à ça, elle servait à ce que les mesures qui allaient être élaborées par les citoyens ne repassent pas par la moulinette et de l'administration et des lobbies. Bon, en réalité, ça s'est quand même fait. Mais bon, on a réussi à ce que ça existe. On a réussi à le faire à peu près comme on voulait le faire. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire travailler les citoyens vraiment dans des très bonnes conditions. Et pour moi, on a réussi à faire la démonstration que quand on propose à des citoyens qui n'ont pas d'intérêt particulier au premier chef, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt électoral, ils n'ont pas d'intérêt économique dans cette affaire, qu'on leur donne vraiment les éléments pour se faire une idée, qu'on leur propose de se mettre au service de l'intérêt général, non seulement ils font du bon travail, vraiment un travail de bonne qualité, mais en plus un travail et des propositions qui vont beaucoup plus loin que ce que les élus ont fait ces 20 ou ces 30 dernières années. J'en ai parlé longuement là, puisque j'ai interviewé pour un autre truc que je fais pour Arte, une femme qui s'appelle Hélène Landmore, qui est professeure à Yale aux États-Unis, qui est professeure de sciences politiques et donc particulièrement spécialiste de la démocratie et des innovations démocratiques, qui a suivi la Convention citoyenne de A à Z, qui a même organisé ensuite un congrès avec des spécialistes du monde entier sur la question, parce qu'elle trouve que c'est effectivement une innovation démocratique majeure, enfin passionnante, qui évidemment n'a pas pu aller à son terme, mais qui en tout cas porte en lui les germes de quelque chose qui mériterait d'être reproduit. Et elle me disait vraiment, pour moi, c'est une des voies qui nous permettrait d'être véritablement en démocratie. C'est-à-dire ce qu'elle disait, et j'insiste bien sur le fait qu'elle enseigne à Yale, qu'elle enseigne des sciences politiques, que ce n'est pas du tout une radicale, que c'est quelqu'un qui est même dans un milieu relativement bourgeois, etc., mais qui s'appuie sur les recherches les plus récentes, notamment cette fameuse étude de Martin and Gills là, de 2014 qui a été publiée chez Oxford, Princeton et tout ça, qui montre bien que dans nos sociétés occidentales, en réalité, on est plutôt dans des formes d'oligarchie ou de ploutocratie, c'est-à-dire dans des systèmes où les 10% les plus riches ont une influence démesurée sur les décisions publiques. Et donc, cette fameuse étude de Martin and Gills, en fait, ils ont étudié plus de 2000 décisions publiques sur 15 ou 20 ans aux États-Unis, en essayant justement de se faire une idée des éléments moteurs et qui avaient le plus d'influence dans la société. Et pour eux, c'était absolument sans équivoque, c'est-à-dire que pour 80% des décisions publiques, c'était majoritairement l'élite économique, les plus grandes entreprises ou les personnes qui ont la surface financière la plus importante qui ont influencé ces décisions-là. La population elle-même est relativement réduite à voter tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 4 ans aux États-Unis. Et dans l'intervalle, a relativement peu de poids, a relativement peu d'initiative pour pouvoir ou proposer des lois ou des avancées, ou s'opposer à un certain nombre de dispositions. Aller dans la rue, faire des pétitions, mais tout ça, on voit bien que ça a de moins en moins d'impact. Et donc là, quand je parlais avec elle, et je finirai avec ça, ce qui était très intéressant, c'est que je lui posais la question, en tant que spécialiste de la démocratie, pour toi, qu'est-ce qui pose problème par rapport à la question climatique? C'est-à-dire pourquoi nos démocraties n'arrivent pas à gérer la question climatique de façon beaucoup plus puissante? Et elle me dit, bah, le problème, c'est que nous ne vivons pas vraiment dans des démocraties. C'est-à-dire que le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est pas vraiment ça pour le moment. Et donc, on se heurte effectivement à des intérêts économiques qui n'ont pas forcément, à court terme en tout cas, envie que des modifications aussi radicales, aient lieu. Et c'est clairement ce qui nous est arrivé avec la Convention citoyenne.
Alors, j'ai quand même une question. Le pouvoir par le peuple et pour le peuple, est-ce qu'il s'exercerait exactement de la même manière si on avait affaire à un peuple qui n'était pas passé par deux cases, qui sont d'une part la formation et d'autre part, quelque part, l'obligation et même l'acceptation, puisque je crois que ceux qui voulaient refuser pouvaient refuser. Donc, en fait, j'ai envie de dire les plus mauvaises têtes ou peut-être les plus hostiles, je ne sais pas. Il y en a quand même une partie qui ne sont pas, alors pas majoritaires, mais qui n'étaient pas dans le dispositif. Donc, en fait, ça, c'était une question que j'avais, enfin, petit avis, mais j'ai quand même la question. Est-ce que dans les éléments très structurants de ce genre de processus, il n'y a pas, d'une part, la formation? Donc le fait de réaliser ce qui se passe, et donc il y a une carence médiatique aussi que ce genre de dispositif comble, il n'y a pas juste une carence institutionnelle, et d'autre part, le fait de devoir travailler de manière collective, dans un contexte dans lequel les gens l'acceptent, et du coup on se retrouve pas seul face à l'angoisse et pas seul face aux défis, et ça libère quand même de l'audace et de l'envie de faire que les gens n'ont pas quand ils sont seuls dans leur coin, ou que les cercles sociaux dans lesquels ils se sont inscrits, sont des cercles qui n'ont rien à voir avec le problème à traiter. Donc est-ce que ces deux éléments-là sont quand même pas deux éléments qui jouent de manière très très forte et qui sont pas deux éléments qui expliquent notamment comment est-ce qu'une bande de Français ordinaires se transforme en écolo militants, qui vont jusqu'à faire peur, au président, quelque part?
Si, si, complètement. Et d'ailleurs, dans tous les éléments qui permettraient d'aller vers une démocratie plus ouverte, c'est-à-dire une démocratie où les citoyens ont beaucoup plus d'initiatives, il est clair qu'il y a des processus d'apprentissage et la démocratie, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on passe pas de je vote tous les 5 ans et je m'en occupe pas, sauf pour aller manifester ou faire des pétitions, à je m'implique sans un certain nombre d'étapes. Et il est clair que moi, je pense que ce qui fonctionnerait bien, c'est une sorte d'hybridation entre ce qu'on a fait avec la Convention citoyenne et ce qu'on peut connaître en Suisse, c'est que des citoyens puissent avoir l'initiative de mettre un sujet sur le tapis, donc ce qu'on appelle référendum d'initiative citoyenne, ou
Votation en Suisse, oui.
voilà, votation en Suisse, ou l'initiative européenne qui existe aussi. Donc, il faut déterminer quel est le pourcentage du corps électoral qui doit se mobiliser pour pouvoir obliger le Parlement à se saisir et le gouvernement à se saisir d'un sujet. Ensuite, ce sujet, pour moi, devrait être examiné par des personnes tirées au sort qu'on va former, effectivement. Donc, ils vont avoir un temps de formation et je pense que ça pourrait même être encore plus élaboré que ce qu'on a fait pour la Convention citoyenne, où on a été très vite sur un sujet qui, en plus, est très complexe, avec vraiment énormément de dimensions et qui aurait mérité d'être approfondi et d'avoir un temps de digestion beaucoup plus important. Et une phase de délibération, et ça c'est ce que tu disais quand tu disais on fait ensemble et on est obligé de faire ensemble, on a vu à quel point la délibération était un outil extraordinaire pour construire du consensus, pour permettre à des gens qui ne sont absolument pas d'accord au départ ou qui n'ont pas des idées politiques similaires, de trouver un terrain d'entente qui n'est pas forcément celui de l'un ou celui de l'autre. Mais c'était très impressionnant de voir à quel point, par exemple, les idées qu'on pourrait qualifier de complotistes ou en tout cas de vraiment très extrêmes, très farfelues, étaient assez rapidement écartées par le groupe. Parce
Toi,
qu'il y avait une...
tu as assisté à l'ensemble des débats
Oui,
ou
à
quasiment
part...
à l'ensemble des débats?
Oui, j'ai dû rater un jour ou
D'accord.
deux parce que j'étais en tournage, mais sinon j'étais là.
Alors, donc tu as vraiment assisté à tout, quoi.
Et c'était très impressionnant de voir ça, de voir qu'il y avait une espèce d'équilibre qui se faisait dans le groupe, parce qu'il y en a toujours un qui a un peu plus d'expertise sur un sujet, un autre qui va pouvoir dire, non mais attendez, si on prend telle mesure, moi, par exemple, dans ma vie, ça ne marche pas du tout, ça. Et un autre va pouvoir surenchérir. Et donc, ça finit par construire une sorte de terrain commun. Et comme il n'y a pas, encore une fois, d'intérêt particulier trop fort, c'est-à-dire que personne n'a vraiment intérêt à tirer la couverture à lui, il n'y a rien à gagner à la fin. C'est vraiment se mettre au service de l'intérêt général comme on le ferait dans un jury d'assises, où on vient et pendant un temps donné, on se saisit d'un problème et on doit essayer de prendre la décision la plus juste possible. Le fait d'être observé, le fait aussi d'avoir été missionné, et c'est ça qui a été assez cruel d'ailleurs dans la Convention citoyenne, c'est que je pense que un bon nombre de citoyens se sont vraiment sentis investis d'une mission parce que à l'issue de leurs travaux, il y avait un débouché tangible. C'est-à-dire qu'on leur a dit, oui, si vos propositions sont suffisamment abouties, qu'elles sont sous forme de projet de loi, elles passeront sans filtre. C'est quand même un sacré truc. C'est très rare de proposer à des citoyens d'aller aussi loin dans l'élaboration de la loi. Donc là, tout d'un coup, c'était du sérieux. Et pour moi, c'est ça qui fait évidemment défaut à tous les processus de démocratie participative qui sont pour moi très souvent des simulacres de participation, parce qu'on fait semblant de demander son avis à des gens, et puis en réalité, on a déjà une idée très arrêtée de ce qu'on veut faire. Moi, je l'ai fait avec certaines
Oui,
communes.
ça c'est les débats publics. Donc
Voilà.
ça, j'ai bien connu.
Moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu
Oui,
vois,
bien
de
sûr.
travailler avec des villes qui me disent, bon, alors voilà, on veut faire participer les gens pour le plan climat. Donc, on a
Oui,
déjà les 6 points, comment on fait pour qu'ils y arrivent?
c'est partout pareil. C'est partout pareil.
Donc, bon. Donc là, c'est pas pareil. Et c'est ça, en fait, qui est aussi un enseignement.
J'ai mis très longtemps à comprendre qu'il y avait une superbe novlangue dans les procédures françaises qui s'appelle le débat sur l'utilité publique. Donc en fait, quand j'étais jeune et con, et maintenant je suis devenu vieux et con, me disent mes enfants, je croyais qu'on allait discuter de l'utilité de faire. Et en fait, ce n'est pas du tout de ça dont on discute dans les
Ah
débats
non, bien sûr.
d'utilité publique. C'est de la manière de rajouter trois amendements à un truc qu'on a décidé de faire. Voilà.
Exactement.
Donc, voilà. Donc
Mais
oui,
tu vois,
non, je.
c'est ça qui est quand même très intéressant, c'est que les gens ne sont quand même pas idiots, donc au bout d'un moment, ils le voient, ça. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec le grand débat. Ils voient aussi que quand ils votent pour quelqu'un, ça ne change pas fondamentalement leur vie et que ça ne résout pas non plus des problèmes majeurs. Donc au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait une forme de fracture, qu'il y ait une forme de désintérêt de la politique, qu'il y ait un désintérêt du vote, qu'il y ait un désamour des responsables politiques. Et ce qu'on a découvert là, enfin ce qu'on a redécouvert, parce qu'on l'avait vu à d'autres occasions, c'est qu'il n'y a pas du tout un désintérêt de la politique au sens propre. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand tu donnes la possibilité aux gens de s'impliquer et de vraiment bosser parce qu'ils savent que ça va servir à quelque chose, et c'est vraiment ça la clé. C'est quand ils savent que ça va servir à quelque chose, ils y vont. Et je veux dire, ils ont bossé 9 mois et je sais pas combien de week-ends. Et même entre les sessions, ils continuaient à bosser, ils continuaient à se parler, ils avaient des ateliers. C'est quand même impressionnant de voir la dévotion, quoi. Enfin, l'engagement désintéressé que tu peux trouver chez des citoyens sur des sujets, encore une fois, aussi complexes, aussi graves, aussi. Et puis aussi casse-gueule, parce qu'il fallait y arriver quand même.
Ouais, j'ai deux questions. Alors, il y a une question sur l'organisation de la formation, parce qu'en fait, la formation, à un moment, c'est accepter de remettre à un tiers de confiance, c'est-à-dire les organisateurs de la convention et les gens qui vont venir, le fait d'avoir une vision du monde qui est suffisante pour être capable de discuter du problème qu'on va traiter derrière. Comment est-ce que cette confiance naît? Voilà. Et j'ai une deuxième question, alors qui est le pendant, qui est-ce que un certain nombre ont considéré qu'on n'en savait jamais assez. Comment est-ce qu'ils ont pris finalement l'équilibre entre on ne peut pas y passer 25 ans et par ailleurs, quand on rentre dans un sujet terriblement complexe avec des ramifications dans tous les sens et qui en fait, on finit assez vite par le comprendre, embarque à peu près tout ce qu'on fait partout et tout le temps, où est-ce qu'on pose la limite pour en savoir assez et avoir confiance dans son propre jugement? Voilà, comment ça s'est géré ça?
Ben, c'est pas facile. C'est-à-dire que, il y avait un équilibre à trouver entre leur donner des informations qui étaient le consensus scientifique sur la question climatique, par exemple, le plus communément admis. Donc, on leur a donné dans ce qu'on avait appelé je sais plus comment on avait appelé ça, la base de connaissances, ou donc qui était à la fois un document écrit et quelques interventions. Ce que dit le GIEC, ce que dit le Haut Conseil pour le Climat.
Pardon, j'ai une question. Les citoyens eux-mêmes ont été associés à leur programme de formation ou programme de formation, il a été décidé par le comité d'organisation.
Ils ont été un peu associés, je vais te dire comment
D'accord.
Après, mais la base de.
Ah, c'est pas un point d'amélioration, ça, quelque part?
Oui, absolument. C'est d'ailleurs une vraie conversation qu'on a eue avec, encore une fois, avec Hélène Landemort, qui me dit si on veut vraiment faire en sorte que ces assemblées citoyennes soient le plus démocratiques possible. Il faut arriver à ce qu'elle ne soit pas pilotée par un comité de gouvernance qui lui-même va induire des choses, va potentiellement arrêter, enfin border un certain nombre de débats ou de processus. Bon, ce qui n'était pas inutile là pour cette fois-là, parce que c'était une première et que je pense que c'est, encore une fois, sur un sujet aussi vaste, je pense qu'ils avaient besoin de cadre pour démarrer. Mais idéalement, oui, il faudrait que le groupe soit capable de s'auto-saisir de plus en plus de sa propre formation. Et donc là, il y avait une partie du socle de connaissances qui était vraiment apportée par le comité de gouvernance, mais en essayant d'aller vers la plus grande objectivité possible sur la qualité des informations, donc en prenant des informations qui étaient vraiment admises par les institutions, par le consensus scientifique. Donc, c'était aussi Valérie Masson-Delmotte qui vient, donc vice-présidente d'un des groupes de travail du GIEC, etc. Ça, c'était une chose. Après, il y avait leur donner un certain nombre de points de vue différents qui venaient de différents acteurs de la société qui n'étaient pas du même horizon. Donc ça, le but, c'était d'avoir une pluralité, c'est-à-dire qu'ils parlent à la fois des ONG, à la fois à des chefs d'entreprise, donc il y a eu le patron d'ADP, il y a eu le patron de Danone, il y a eu Louis Gallois, là, le patron de PSA, mais il y a eu aussi des agriculteurs bio, mais il y a eu aussi des architectes, mais il y a eu aussi toi, mais il y a eu aussi des syndicalistes comme Laurent Berger, ils ont auditionné des politiques en exercice, donc des ministres, des anciens ministres, pour essayer de faire un tour d'horizon. Et ça, c'était un de nos rôles, c'était le comité de gouvernance et les garants, de veiller à la pluralité la plus importante possible de ces points de vue. Ensuite, on leur a demandé de nous dire qui, eux, voudraient auditionner. Donc, on a ouvert une liste et ils ont pu...
Pardon, là, ils ont commencé à faire un peu leur shopping list à eux, quoi.
Inscrire des noms, et donc on a pris les noms qui revenaient le plus souvent. Et on a organisé quelque chose qui était aussi un endroit où ils avaient du choix. C'était une espèce de speed dating, c'est-à-dire qu'il y avait 10 tables avec 10 personnes et toutes les 40 minutes, ça changeait. Et donc, ils pouvaient choisir la table où ils allaient en fonction du sujet qui les intéressait le plus. Et puis, ils pouvaient aller de l'une à l'autre pour essayer de leur donner, encore une fois, un maximum de connaissances. Clairement, leur ressenti, c'est que ça allait vite, qu'il y avait énormément de choses à avaler, que parfois, c'était indigeste, que c'était trop. Et qu'ils ont eu des moments de découragement quoi, en se disant « mais c'est trop là, c'est trop, on n'y arrivera pas, comment on va faire pour intégrer tout ça ?» Et puis, ce qui a fini par les aider à métaboliser, une fois encore, c'est le groupe. C'est-à-dire qu'en s'en parlant, en acceptant aussi qu'ils bah, n'avaient pas tout retenu, mais que ce n'est pas grave parce qu'il y en avait d'autres qui étaient un peu plus forts sur tel ou tel sujet, qu'il y avait aussi des bases écrites, qu'ils pouvaient retourner voir des vidéos. Bon, ils ont accepté en fait de faire avec ce qu'ils pouvaient. Et puis, ils avaient un autre soutien, on va dire, qui était le groupe d'appui, donc qui était avec des experts que là aussi, on a essayé de prendre dans des structures qui étaient reconnues par tout le monde et qui étaient... les plus objectifs possibles et les plus spécialistes possibles de leur domaine, qui étaient là pour les aider quand ils prenaient leurs mesures, pour leur dire, bon, il y a déjà ça qui existe. Si vous faites ça, ça va avoir tel impact. Si vous faites ça, bah, ça pourrait en avoir peut-être un peu moins. Donc, réfléchissons bien aussi avec ces données-là. Et donc, ce qui, là, n'était pas facile, c'est que pour un sujet si complexe qui allait si vite, le poids de ce groupe d'appui était très important. C'est-à-dire que la proposition qui était faite par le groupe d'appui avait tendance à être un peu, pas adoptée, mais en tout cas servir de base de façon très rapide aux citoyens parce qu'ils ne sont pas spécialistes du domaine.
Oui, c'est le dialogue classique entre le citoyen et l'expert. C'est-à-dire que l'expert, il a quand même, enfin, l'expert, quand il est investi de la confiance, et là, il arrive dans un cadre investi de la confiance, il a nécessairement un avantage pour faire valoir son point de vue.
Exactement.
Difficile d'y échapper.
Et donc là, c'était un de nos jobs, et particulièrement nous, les garants, de tout le temps redire aux citoyens, attention, ça c'est un point de vue, c'est une proposition. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre cette ligne-là. Vous pouvez faire autrement. Et donc, ça les a aidés, effectivement, à des moments à s'affranchir de ce que le groupe d'appui leur proposait. Et puis, ça a aussi fait que le groupe d'appui est resté très à distance. Et pour le coup, ils ont quand même été vraiment super parce qu'ils leur ont toujours donné les informations en disant, je vous donne l'information technique, maintenant, je fais gaffe de prendre 2 pas de recul. Et s'ils ne le faisaient pas, on leur tombait quand même sur le rabot. Donc, ce n'était pas parfait, mais c'était quand même plutôt réussi et plutôt sincère, en tout cas, dans le travail que chacun a pu faire.
Le lien avec le projet de loi, il a existé, c'est-à-dire les citoyens ont directement discuté avec des gens qui ont fait le projet de loi, ou bien il n'y a pas eu de contact direct, et donc le projet de loi s'est inspiré de la copie rendue par les citoyens, mais sans discussion.
Si, si, il y a un certain nombre de citoyens qui ont été conviés par le ministère de la Transition écologique particulièrement à faire des débats avec les entreprises concernées, etc. Et puis, ils ont été auditionnés par le Sénat et l'Assemblée, enfin, certains d'entre eux. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'était pas dans le contrat. C'est-à-dire que
Bien sûr.
théoriquement, non mais c'était même un problème. C'est-à-dire que théoriquement, les citoyens avaient déjà discuter avec tous ces gens, ou en tout cas une partie d'entre eux, à partir de ces discussions, avaient fait des propositions et ces propositions étaient suffisamment bien formulées pour pouvoir aller directement à l'Assemblée ou au référendum. Donc, être tranché en gros par la représentation populaire ou par le peuple français directement. Faire ce qui a été fait, c'est-à-dire les remettre dans le chaudron, et très souvent ils se sont retrouvés en minorité face à un certain nombre de patrons d'entreprise qui leur disaient non mais c'est n'importe quoi votre truc, c'est inapplicable, ça va créer tant de chômeurs. Ça les a mis dans une position extrêmement inconfortable. En plus, souvent, ils étaient un petit groupe séparé du reste des 150. Or, les décisions avaient été prises par les 150. Donc, de toute façon, ils ne pouvaient pas revenir dessus. Je veux dire, le vote avait déjà été fait et ils n'avaient pas de légitimité pour revenir dessus. Et donc, ça a été une façon de leur faire un peu avaler la pilule du détricotage d'un certain nombre de leurs propositions par l'influence des intérêts privés et arriver à ce projet de loi qui est effectivement inspiré de leurs 149 propositions, mais qui en a écarté une bonne partie, qui en a minimisé la plus grande partie et qui du coup a un impact infiniment moindre que ce qui était leur travail initial.
J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que sur les 149 propositions, ils étaient convaincus que c'était la chose à faire ou ils étaient convaincus que c'était une proposition à discuter?
Je pense pas qu'ils étaient convaincus que c'était la seule chose à faire. En revanche, ils ont vraiment essayé de construire un projet qui se tenait. C'est-à-dire qu'ils avaient 6 groupes de travail qui étaient sur les sujets majeurs des différents tenants et aboutissants du problème climatique. Et ils ont vraiment réfléchi les choses de façon transversale pour qu'elles se répondent. Et ils ont voulu faire en sorte que tout ça fasse un ensemble cohérent, qui était vraiment pensé pour être une transformation de société. Et donc, ils étaient tout à fait prêts à soumettre ça, c'est-à-dire qu'ils étaient tout à fait prêts à ce que les députés fassent des amendements, à ce qu'il y ait un référendum et éventuellement un choix multiple et que les Français puissent décider. Ils n'avaient pas l'impression d'avoir écrit le texte sacré. Mais en revanche, ils avaient l'impression que tout ça se tenait et que ce n'était pas non plus le supermarché, quoi. Ce n'était pas à la carte.
Parce que une des questions moi, que je me suis posée, c'est de savoir si Macron s'est pas mis dans un corner avec son idée de reprendre sans filtre. Dit autrement, quand des gens travaillent, il me semble que le minimum qu'on leur doit, c'est d'avoir en face des gens qui suivent l'évolution des travaux, sans nécessairement intervenir, mais qui sont capables de comprendre ce qui est en train de se passer, qui découvrent pas le truc juste à la fin avec soit un mouvement d'effroi, soit un applaudissement des quatre mains, et qui est justement une capacité de discussion derrière. mais dans un esprit constructif. C'est-à-dire que, or là, j'imagine que lui, il a absolument pas suivi les travaux pendant les travaux. Je ne sais pas s'il avait un émissaire qui était chargé de le faire, enfin, ou une émissaire, ou plutôt une bande d'émissaires, parce que pour tout suivre, il faut plutôt une bande, qui était chargée de le suivre en temps réel, de telle sorte qu'à la fin, j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé un peu comme une poule devant un couteau, quoi, qu'il avait un objet qu'il n'avait pas bien vu arriver, et donc il ne savait pas trop quoi faire.
Non, mais ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, une partie de ses conseillers était assez affolé de cette promesse du sans-filtre, qu'il trouvait être une promesse exorbitante, qui de toute façon ne pouvait pas être tenue. Et c'est un problème d'ailleurs. Nous-mêmes, on a quand même beaucoup œuvré pour qu'ils prennent cet engagement-là, encore une fois, parce qu'on n'avait pas d'autre, on n'avait rien d'autre dans la main, quoi. C'était notre seul levier. Mais pour autant, le fait d'avoir promis quelque chose qu'il ne pouvait pas tenir, et a priori, s'il n'est pas idiot, il le savait dès le départ, c'est encore un coup de couteau dans le contrat démocratique avec les Français. C'est encore une fois de plus où on se dit, bon, ben voilà, leur parole ne vaut rien. Donc, ça c'est quand même un sujet. Et quant à savoir s'il y avait des gens qui suivaient, oui, particulièrement au ministère de la Transition écologique. Mais pour autant, une fois, d'ailleurs, il y avait eu une, Ophélie, qui était membre du comité de gouvernance, qui était dans le comité.
Que je connais, oui.
Pour autant, quand ils ont vu arriver les 149 propositions, ouais, ça a été un
sacré... Alors, si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à notre cher président en termes de moyens que l'État aurait dû mettre pour que la courroie de transmission se passe mieux? C'est-à-dire, est-ce que tu lui aurais dit, je veux voir trois personnes de Bercy, trois personnes du ministère de l'Agriculture, toi, etc., et je veux qu'ils soient dans l'hémicycle tous les jours là, à suivre les discussions? Enfin, qu'est-ce que tu demanderais que tu n'as pas pensé à demander à l'époque? Lecture faite.
En fait, une chose qu'on aurait pu faire, qui a été faite en Irlande pour la première des conventions citoyennes, c'est une sorte de mix. Il y avait 100 personnes, dont 33 députés, 66 citoyens et un chairman, quoi, un président. Et comme nous le disait la Hélène Landemort, cette spécialiste de la démocratie à Yale, je suis comme à la radio, c'est pour les gens qui sont arrivés en cours, je le redis. c'est pas idéal en termes de processus démocratique, c'est-à-dire que c'est mieux que ça soit que des citoyens, mais dans un premier temps, quand c'est un processus qui n'existe pas, ça crée de la confiance et ça crée quelque chose qui, justement, n'a pas hyper bien fonctionné là, c'est-à-dire qu'il y a plein de députés qui se sont sentis en gros
dépossédés,
agressés, quoi, en disant non mais attends, c'est notre rôle, c'est à nous de faire la loi, donc ces citoyens ils n'ont aucune légitimité, qu'est-ce que c'est que ça, le tirage au sort, blablabla. Donc là le fait de les faire travailler ensemble, en fait ça prépare le terrain, et ça veut dire qu'une fois que les propositions sont faites, il y a déjà des députés qui les ont, et donc potentiellement ça va directement au Parlement sans encore une fois repasser par ce filtre. Ça, je pense que c'est une chose qui mériterait d'être essayée et qui créerait du lien. Une autre chose, c'est, je pense que si je devais reparler au président, je lui dirais, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. C'est pire. C'est vraiment.
Ça n'a pas un petit côté rocher de Sisyphe, ça n'a pas un petit côté rocher de Sisyphe, ça.
Non, c'est un côté. Bon, je sais que vous n'y arriverez jamais, mais quand même, il faut essayer. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il vaut mieux avoir un engagement un tout petit peu moins important, mais le tenir et que tout le monde puisse se rendre compte qu'il a été tenu. Parce que ça, en fait, ça crée un socle de confiance qui permet, dans un système démocratique, éventuellement d'avancer et de faire une étape ensuite avec quelque chose de plus ambitieux. Là, c'est mi-figue, mi-raisin, parce qu'encore une fois, on a fait la démonstration de quelque chose de vraiment super. Mais pour toute une partie des gens, en fait, c'est juste la manifestation de plus que voilà, que les politiques sont des escrocs, qu'ils ne tiennent jamais leurs paroles, que de toute façon, on le savait bien. Et c'est pas génial, enfin, dans un monde où le populisme a tendance à exploser et où la démocratie est de plus en plus faible, c'est pas super.
Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi? C'est, j'allais dire, on prend les mêmes et on recommence. Non, on prend justement surtout pas les mêmes. On en prend 100 autres tirés au sort, ou on les mélange avec 50 députés et on recommence.
La prochaine étape, pour moi, ça
serait... Parce que c'est un processus permanent, c'est-à-dire qu'on voit bien que d'abord, la loi qui a été votée reste partielle par rapport à l'ensemble des choses à faire. Ensuite, le nombre de gens qui ont un peu amélioré leur connaissance du problème à traiter dans la population dans son ensemble, parce que en fait, les citoyens qui sont passés par cette convention, ils ont créé un écart très fort par rapport à leurs concitoyens
Ouais.
sur la compréhension du problème.
Je prends ma batterie, j'ai presque plus de batterie.
Pardon. Oui, effectivement, il ne faut pas buter sur des problèmes techniques, c'est toujours un peu désagréable. On ne sait pas le
Encore.
nombre de grandes théories qui ont buté sur les problèmes de câbles. Et alors, donc ça, enfin bon, c'est un peu décousu dans les questions, mais donc il y en a une quand même qui est comment combler au moment où les citoyens font part de leur copie cet écart qui s'est creusé par la force des choses, hein, sur la compréhension du problème à traiter entre eux et le reste de la population. Qui doit être convaincu des mesures. Donc ça c'est un sujet. Je sais pas si. Voilà. Et un deuxième sujet, c'est what next? Parce que maintenant que de toute façon le problème n'a pas été vraiment traité, c'est-à-dire qu'on a voté une loi, elle est partielle par rapport à l'ensemble des choses qu'il faudrait faire. Sur un certain nombre de mesures, elle est timide par rapport à des choses qui sont fondées et qui ont été proposées. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recommence jusqu'à ce que ça marche. En fait, qu'est-ce qu'on fait?
Pour moi, la première des choses, c'est qu'il faudrait donner une existence institutionnelle à ce type de processus de démocratie délibérative, voire même de démocratie directe, comme je le disais.
D'accord, donc ça serait plus important pour toi que de mettre à nouveau dans l'article premier de la Constitution, je sais pas quoi, et de s'en remettre au juge en disant, avec un peu de chance, il interprétera ça dans le bon sens.
Moi, je pense qu'il faudrait créer un RIC délibératif, quoi. C'est un référendum d'initiative citoyenne qui passe ensuite par un système délibératif. Et il me semble que ensuite la façon dont la délibération se produit, avec qui, est-ce que c'est que des citoyens tirés au sort, est-ce que c'est dans un premier temps des citoyens mélangés avec des élus, ça mérite d'être discuté. Et je pense que ça dépend des contextes, et que ça dépend des contextes, encore une fois, de confiance que les citoyens ont dans leurs élus, que les élus ont dans ce type de processus. Et on voit bien que cette confiance, elle est un peu émoussée. Donc, à mon avis, ce serait une étape intéressante. Et il faudrait faire en sorte que, en fait, ce que tu appelles le gap qu'il faut combler entre les 150 et le reste de la population, théoriquement, il se comble de deux façons. La première, c'est que ces processus-là sont à ciel ouvert justement pour que tout le monde puisse s'y intéresser.
Oui, mais
Pourquoi est-ce que tout le
les gens
monde...
n'ont pas le temps. En pratique, les élus ont quand même été déchargés d'une partie de leurs obligations quotidiennes et mis dans un contexte dans lequel ils ont eu justement le temps, ce qui est le problème de tout le monde.
Oui. Mais pour autant, si par exemple un certain nombre de gens s'y intéressaient, même si c'est une minorité, si les médias s'y intéressaient suffisamment pour faire des comptes rendus réguliers, des petites pastilles de ce qui se passe, de ce qui se dit, des idées fortes qui sortent, etc., ça pourrait commencer à créer un débat. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas produit cette fois-là et pourquoi c'est difficile que ça se produise? Parce que la plupart des gens ont vu cet exercice comme une façon pour Macron de se défausser, de gagner du temps, de faire une pirouette, de faire un énième comité Théodule. Donc, globalement, les gens n'y croyaient pas. Ce qu'il faudrait, et c'est pour ça que c'est important d'institutionnaliser ce genre de processus, c'est que comme en Suisse, où tu sais que tu vas pouvoir éventuellement être sollicité pour une votation régulièrement, et en général, les Suisses votent 3 ou 4 fois dans l'année, si tu sais que ce genre de processus existe et qu'il va vraiment aller à son terme et qu'il va vraiment donner un référendum, potentiellement, tu t'intéresses un peu au débat, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, tiens, dis donc, parce que encore une fois, tu sais que ça va servir à quelque chose. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'une fois que les conclusions ont été rendues, si ça fait l'objet d'une votation, d'un référendum à choix multiples, il y a une campagne. Et donc, dans cette campagne, il y a à nouveau de la discussion. Et là, il y a un rôle effectivement très important des médias, des pouvoirs publics, pour transmettre un certain nombre des connaissances qui ont été transmises aux 150. Typiquement, le socle de connaissances qui avait été fait pour les citoyens de la Convention citoyenne, il faudrait que ça soit en ligne, il faudrait que ça soit dans une vidéo hyper bien foutue, qui aurait été validée par le Haut Conseil pour le climat ou le GIEC ou je ne sais qui, pour qu'on soit sûr que c'est de suffisamment bonne qualité scientifiquement pour que ça donne les bonnes informations aux gens, et qu'ensuite on puisse faire voter les gens. C'est très différent de faire voter les gens dans un référendum à choix multiples. Quand ils ont eu la chance de s'intéresser au problème à travers leurs semblables qui ont dégrossi dans une délibération, puis dans une campagne où on a fait l'effort de produire de la matière pédagogique qui permet d'éclairer le choix.
Oui, alors la question des médias, est probablement un sujet, enfin une question pour laquelle je mourrais sans avoir trouvé la réponse, parce que je n'ai toujours pas compris, alors je ne sais pas si toi tu as une idée, sur la manière dont on arrivait à faire en sorte que les médias soient un peu plus contributifs à l'éducation et un peu moins dans un jeu où je relate des anecdotes sans trop me poser. Enfin, en gros, allez, je vais être un peu méchant, je parle de ce qu'on prend, de ce que je comprends et pas nécessairement de ce qui est important. Et je ne sais pas si tu as des suggestions, parce que l'adhésion de la population à un processus de cette nature, l'intérêt qu'ils trouvent dans les travaux, etc., passe par les médias qui, ainsi que leur nom l'indique, sont les seuls à pouvoir faire la médiation. Parce que les citoyens ordinaires, ils ne rentrent pas dans l'hémicycle. Vous n'avez pas eu des visites guidées où il y a 10 millions de Français qui sont passés voir ce qui se passait, quoi. Est-ce que là, tu as tiré de cette expérience aussi des idées dont tu te dis, voilà deux, trois trucs qu'on pourrait essayer pour faire en sorte que les médias. Je ne sais pas si je dois dire jouent un peu plus leur rôle, mais en tout cas montent un peu en gamme, allez, je vais le dire, sur la diffusion des faits.
En fait, il y a deux axes. Je pense qu'il y a un axe qui est de la médiation citoyenne. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui le rôle, parfois pour le pire, mais aussi parfois pour le meilleur, que des médiateurs, que sont des YouTubeurs, des influenceurs, des ce que tu veux, peuvent jouer sur leur chaîne YouTube, sur des réseaux sociaux, en vulgarisant un certain nombre de sujets, en allant regarder dans les études scientifiques, et donc là, potentiellement, en allant participer à ce genre de processus et en faisant des vidéos super bien foutues qui donnent le sel. Et là, moi, je suis assez étonné de voir l'appétit qu'il y a pour ces chaînes qui sont quand même ouais, très pédagogiques, quoi. C'est pas vraiment de l'entertainment au sens propre du terme. Et là aussi, la dévotion et le plaisir qu'un certain nombre de ces youtubeurs, influenceurs, je ne sais quoi, peuvent trouver à faire cette médiation. Ils ont un vrai plaisir à faire ça et à trouver de la reconnaissance à le faire et tout ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui se développe et qui est super, parce que là aussi, on reste dans un espace finalement citoyen, d'intérêt général. Ensuite, pour les médias, la grosse problématique, c'est que les médias, comme la plupart des entreprises, sont pris dans des mécaniques économiques de rentabilité. Et on voit bien aujourd'hui que ce qui est terrible, c'est que les médias aujourd'hui sont de plus en plus en ligne, de moins en moins sur papier, donc de plus en plus tributaires des réseaux sociaux pour que leurs articles fonctionnent et que leurs médias soient lus. Et les réseaux sociaux, alors pour avoir parlé à des patrons de la tech il n'y a pas si longtemps, les réseaux sociaux ont un algorithme qui favorise, aujourd'hui en gros, l'algorithme favorise les publications qui ont le plus de commentaires. Donc celles qui ont le plus de commentaires, c'est souvent celles qui sont les plus polémiques, où les gens s'engueulent, ou ça, hein. Donc ce qui a tendance justement à faire monter le complotisme, ou en tout cas là encore des idées un peu farfelues. Et donc, si les médias veulent que l'algorithme des réseaux sociaux embarque leurs articles et que ça, ils peuvent plus compter uniquement sur la viralité organique, comme on appelait ça avant, c'est-à-dire que les gens aiment l'article et ils se le partagent, ils doivent créer du débat. Donc être un peu putaclic, comme on dit, avoir des titres un peu choc, être sur des sujets un peu clivants. Et ça, c'est pas exactement ce dont on a besoin justement pour avoir une société démocratique apaisée où potentiellement on peut se mettre tous autour d'une table, avoir une compréhension commune d'un sujet et ensuite chercher une réponse ajustée tous ensemble. C'est même le contraire. Donc aujourd'hui, les médias ont clairement tendance, pour des raisons économiques et des raisons d'algorithme, à chercher la polarisation plutôt qu'à chercher la concertation et la délibération.
Ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
Non, et d'ailleurs, enfin, aparté, mais ce n'est pas du tout une bonne nouvelle non plus pour les élections, parce que on a tous suivi l'affaire Cambridge Analytica. À l'époque, il y avait cette journaliste du Guardian qui a suivi l'affaire pendant plus d'un an et demi, qui posait la question, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on va être à nouveau capable d'avoir des élections libres, c'est-à-dire qui ne sont pas influencées vraiment par des sociétés privées qui sont capables de cibler les électeurs grâce à toutes les datas qui ont été collectées pour pouvoir leur faire passer des messages bien calibrés et orienter leur vote. Comment est-ce qu'on peut être sûr de ça? Et aujourd'hui, la question est de plus en plus prégnante, parce que ce que faisait Cambridge Analytica, pour avoir encore une fois parlé à ses patrons de la tech dernièrement, Il y a beaucoup de sociétés privées qui sont capables de faire ça, et encore mieux qu'avant. Et clairement, l'élection qui va venir en France va se jouer énormément sur les réseaux sociaux et va être énormément tributaire du réglage des algorithmes. Et donc ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est démocratiquement contrôlable. Et par les sommes investies par les candidats pour payer des sociétés privées, justement, pour faire du micro-ciblage et influencer des électeurs. Et ça, c'est encore quelque chose qui est extrêmement opaque et qui n'est pas du tout dans le débat public. On a encore l'impression que ça se joue au débat à la télé, dans les meetings, mais ça se joue beaucoup plus maintenant sur le web que dans tous ces endroits-là. Et si on ne s'y intéresse pas, notre démocratie est encore plus en danger.
L'importance d'être présent. Alors, justement, je vais basculer sur une question avec les quelques minutes qui nous restent. Alors, quelque chose qui se rapproche plus de ton milieu professionnel ordinaire.
Ah, je t'entends plus. Peut-être ton micro qui est
Pardon,
coupé.
j'ai fait clic sans putaclic. J'ai l'impression, mais c'est, je suis très prudent parce que je me méfie toujours de mes impressions, que dans le monde des arts, cinéma, etc., le thème environnemental séduit globalement beaucoup moins que le thème social. Alors, j'ai éventuellement une hypothèse, mais je vais sûrement pas te la livrer. J'aimerais savoir si, alors, un, tu partages ce constat. Et deux, tu as une explication. Et alors, ça fait un tout petit peu le lien avec ce qu'on vient de dire, parce que c'est des personnages qui sont quand même présents dans la sphère médiatique et sur les réseaux sociaux, parmi d'autres.
Alors, pour le moment, c'est vrai, oui. C'est moins vrai dans la littérature, où dans la littérature, il y a une sorte de poussée vers donc ce qu'ils appellent les cli-fi, les climate fiction aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Et même là, dans les 2, 3
Alors,
dernières
je ne
années,
parlais pas nécessairement du fond, je parlais du militantisme des individus en tant
Ah, d'accord.
qu'individus. Tu vois, pour prendre un exemple, tu prends à l'époque où ça passait un plateau de Qui veut gagner des millions spécial association et défilait tout un tas d'associations pour l'éducation des gens défavorisés, les handicapés, je sais pas quoi. La cause environnementale était très peu représentée et dans les gens qui s'expriment. Sur ce qu'il faudrait changer dans le monde, c'est quand même beaucoup plus fréquent d'avoir des gens dans le monde du spectacle qui s'expriment sur la misère sociale. Donc, je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur en disant c'est mieux, c'est moins bien. Juste, je constate. Et la question était, est-ce que tu as une explication à ça?
Bah, moi, je t'avoue que je trouve que c'est de plus en plus quand même. C'est-à-dire que moi, je vois de plus en plus d'artistes. Là, tu vois, je suis en train de faire un podcast avec plein d'acteurs français qui s'appelle Animalia, sur l'extinction des espèces, où tu as Guillaume Gallienne, Isabelle Adjani, François Civil. Ça m'arrive régulièrement donc de faire des trucs avec Marion Cotillard, avec Juliette Binoche. Là, il y a eu cette sélection au Festival de Cannes, Cinéma pour le climat, où il y avait Aïssa Maïga qui avait fait un film, où il y avait Louis Garrel. Donc, ça vient, ça a mis du temps à venir. Et là, clairement, ça vient. C'est pareil, il était question que j'organise un grand concert avec France 2. Donc, les artistes de la musique étaient tous prêts à venir aussi. Enfin, ça y est, ils comprennent que c'est l'enjeu du siècle et qu'il va falloir en parler. Et ça a été long, et moi j'avais mal compris ta question, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que pendant longtemps, les scénaristes, les réalisateurs ne se sont absolument pas saisis du sujet et ne savaient pas comment raconter des histoires là-dessus. Donc il y a eu quelques films, il y a eu Le jour d'après, blockbuster, film catastrophe, il y a eu Avatar avec une tentative justement d'avoir la question écologique un peu en creux, etc. Mais sinon, très peu de choses, comme s'ils ne savaient pas par où l'attraper, qu'ils avaient peur d'être moralisateurs, qu'ils avaient peur de faire des trucs à thèse. Et là aussi, c'est en train de venir, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en train de venir plus par la littérature, où il commence à y avoir beaucoup de romans qui se saisissent du sujet, et donc mécaniquement le cinéma, puisque le cinéma va beaucoup piocher dans les livres. Donc non, moi je vois un vrai basculement depuis, allez, 2, 3 ans, quoi. Et bon, un peu
D'accord.
comme dans le reste de la société.
D'accord. Donc, parce que moi, j'avais une hypothèse, alors un peu taquine, mais qui était de dire le monde du spectacle est quand même un monde, tout le monde connaît l'expression, la vie de jet-setter, hein, où quand on a réussi, en fait, ça va avec une aisance matérielle, j'ai envie de dire, ostentatoire. On roule dans des grosses bagnoles, on prend un jet privé, on se baigne dans du champagne, je sais pas quoi encore, et qu'il est compliqué de marier avec un discours public invitant à la modération, parce que la préservation de l'environnement, il y a quand même une grosse composante modération et sobriété dans le discours public qu'on doit tenir. Est-ce que c'est une des causes, ça, selon toi,
Non,
ou pas tant?
ça existe chez un certain nombre effectivement d'artistes qui disent non, mais moi j'ai pas de leçons à donner, ou là là, et qui ont peur effectivement de se faire attaquer là-dessus. Et ça existe beaucoup chez des influenceurs et des youtubeurs, c'est-à-dire des gens suivis par des millions de gens qui font du placement de produits et qui sont réticents parce qu'ils se disent je vais me faire hyper clasher sur les réseaux sociaux parce que moi je peux pas trop l'ouvrir quoi. Et donc, il a fallu aussi, il a fallu aller en chercher quelques-uns en disant, mais dites-le, enfin, dites-le, moi-même, j'y arrive pas, et moi-même, j'y suis pas du tout, mais je vois bien qu'il faut qu'on y aille, quoi. Et moi, le premier, et donc, il y en a qui le font, mais qui s'en prennent plein la figure quand même, hein. Je sais que Marion Cotillard, elle s'en prend régulièrement, dès qu'on la voit dans une pub Dior, dans un aéroport, et qu'elle a pris l'avion pour aller je ne sais où, etc. Moi, enfin, moi aussi, hein, ceci dit. Moi, on vient me dire, ah, mais comment vous avez fait pour faire votre film? Vous y êtes allé en trottinette, ah, mais vous avez pris l'avion, vous êtes un hypocrite, tout ça. De toute façon, tu t'en prends toujours.
Faut faire comme Greta.
Oui. Ouais, c'est plus long pour les films, ça prend plusieurs années.
Ah oui, ça c'est clair. Bah, c'est plus long pour tout.
Oui.
C'est clair que c'est une des difficultés de la transformation du monde qui nous attend. C'est qu'en fait, l'énergie, c'est une drogue dure, hein. Ça nous a grisé, ça nous a grisé, ça nous a donné la vitesse, ça nous a tout donné. Et c'est clair que de faire avec 100, enfin de faire avec moins ou beaucoup moins, c'est à un moment où on va devoir, je ne sais pas si je dois dire renoncer, mais il y a quelque chose de ça.
Je suis
Et
allé
c'est.
cet été à Venise en voiture électrique. Je peux te dire que c'était pas comme y aller en avion. C'était un autre périple.
Oui, mais tu as vu plus de paysages.
Plus de paysages. Et puis maintenant le réseau de bornes de recharge n'a plus de secret pour moi.
Je suis allé à Stockholm en train et j'en garde un excellent souvenir.
Oui, moi aussi j'ai été faire des. J'ai
Le
été
déplacement devient
par
voyage, quoi.
Marne.
C'est, enfin, voilà. Bon, et que les souvenirs d'anciens combattants sont peut-être pour un autre jour, puisque tel la SNCF, nous devions partir à l'heure et nous allons arriver à l'heure. Bah, merci énormément de t'être prêté à ce petit exercice.
Ben, merci beaucoup, c'était très agréable comme conversation.
J'espère que les gens qui nous ont regardés ont appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai appris un certain nombre de trucs, donc je suis au moins content pour ça.
J'ai appris des trucs, alors là, je suis fier, t'as fait ma
Ça
soirée.
prend tout âge. Voilà, eh bien, nous allons remettre non pas notre mandat en jeu, mais notre parole à Madame Loyal, puisque je crois que c'est à Emma qu'il revient de prononcer les mots de conclusion.
Oui, Mesdames Loyal, puisque je pense que Magali va me rejoindre.
Ah
Merci
bon,
beaucoup.
pardon.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges absolument passionnants. Effectivement, c'est un peu frustrant de devoir terminer maintenant, parce qu'il y avait encore beaucoup de sujets à explorer. En tout cas, sachez que vous avez été plus de 1600 entre Zoom et Facebook à nous suivre en live et que cette vidéo sera mise en ligne donc sur les chaînes YouTube de Shift Project et d'On est prêt. Alors effectivement, on a parlé beaucoup de mobilisation citoyenne et de rouage de la démocratie, mais nous, côté Shift, on continue à travailler aussi sur le fond, sur les mesures, sur ce qui doit être mis en place, notamment pour le prochain quinquennat. Et donc, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on a un certain nombre de publications, de rapports sectoriels, notamment le rapport de la culture tout début décembre, pour justement présenter les priorités pour décarboner la société. Et on a un live, un webinaire dès demain soir, à 18 h, même endroit sur Facebook, et ce sera un autre lien Zoom, pour la résilience des territoires. Donc, quelles sont les actions à mettre en œuvre au niveau local, à retrouver demain soir. Et Magali, côté On est prêt, vous avez aussi de belles actualités, je crois.
Oui, et ben dans la foulée du live du chiffre de demain à 18 h, on en a aussi un à 19 h avec Paloma Moritz, qui est notre rédac chef et qui est aussi responsable du pôle écologie chez Blast, avec Gilles Boeuf, qui est ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle, Gilles Moine, le directeur du Centre Athénaïs, et Adélaïde Charlier. L'objectif, ça va être de parler de notre nouvelle campagne qui s'appelle Zone Sauvage, devenez gardien de la nature, et qui a, comme je le disais en début de séance, objectif à faire vraiment monter ce sujet de la biodiversité au même pardon, au même niveau que celui du climat. Donc vraiment faire comprendre les enjeux de la sixième extinction de masse. Le deuxième enjeu, c'est d'émerveiller sur le vivant autour de soi. Et en fait, pour ça, on a gamifié un peu les choses en proposant un test animal totem et des actions pour protéger son animal totem parmi 13 animaux en voie de disparition en France. Et on parlait des youtubeurs tout à l'heure, des influenceurs. Ça, c'est vraiment une des composantes de notre campagne parce que c'est ce qui nous permet d'aller toucher la jeunesse là où elle est, à savoir sur les réseaux sociaux. Instagram, aujourd'hui TikTok et bien moins Facebook qu'avant, et surtout de créer un effet de pédagogie inversée, c'est-à-dire que les jeunes eux-mêmes vont aller toucher leurs parents et leurs grands-parents. Voilà, donc vous êtes bienvenus en zone sauvage demain à 19h.
Voilà, et peut-être que le prochain live entre Cyril et Jean-Marc sera sur TikTok.
On est de plus en plus jeunes, nous, tu sais. Donc.
Voilà. Oui, ça, c'est malheureusement ce qui finit un jour par nous arriver à tous, c'est-à-dire qu'à un moment, le vieillissement est un rajeunissement.
C'est où on est.
Pas nécessairement pour le meilleur. Bon.
Un grand merci.
Eh bien, encore merci. Merci à toi, Cyril. Merci à tout le monde et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.